Bonjour, bonjour à tous. Quand on regarde la carte de Météo France, c'est du orange quasiment partout et même du rouge pour 14 départements. La canicule gagne du terrain, la France suffoque et les villes tentent de s'adapter. C'est une image forte qui montre bien que les effets du réchauffement climatique touchent tout le monde. L'Angleterre fait face à une pénurie d'eau d'ampleur nationale. On vous explique dans ce journal. Dans ce journal aussi, l'évacuation de deux camps de migrants tôt ce matin, l'un à Strasbourg, l'autre à Paris, on y était. Et puis Volodymyr Zelensky qui assure que la Russie prépare de nouvelles offensives alors qu'une réunion entre Donald Trump et Vladimir Poutine est prévue vendredi pour tenter justement de mettre fin à la guerre. Vous avez peut-être mal dormi et ça risque de continuer. La canicule se poursuit en France et resserre son étau. 14 départements en vigilance absolue aujourd'hui. Le centre-est bascule dans le rouge. L'Isère, la Drôme, l'Ardèche, mais aussi le Rhône et le sud-ouest restent particulièrement touchés avec notamment le Gers, les Landes ou encore l'Aude. L'Aude, où il va faire par endroits jusqu'à 38 degrés cet après-midi. C'est le cas notamment à Narbonne. Lauriane Delanoë, vous êtes sur place et chacun fait comme il peu pour trouver un peu de fraîcheur.
Oui, ça y est, la chaleur engourdit les rues de Narbonne pour un peu d'air. Il fallait sortir tôt ce matin à 6h30 pour Régine, assise sous des mûriers platanes.
Ah, là, c'est impeccable. C'est le seul moment où c'est que je peux respirer. Ça fait 3 jours que je dors pas. C'est dur, hein. Il y a les ventilos toute la journée, ils tournent en moins de l'eau.
Et la nuit?
La nuit, pareil, j'ai le ventilo en face de moi et puis j'ai ma fenêtre. Ça suffit pas quand même, on est chaud quand même.
Céline profite aussi du vent sous les arbres au lever du jour. Cette vacancière s'est levée tôt pour promener son petit chien Rio.
Parce qu'il fait très chaud et il ne supporte pas la chaleur, parce que le bitume sur les pattes du chien, c'est pas possible.
Alors vous disiez, il ne supporte pas la chaleur, et vous?
Moi non plus.
Comment ça s'est passé cette nuit pour vous?
Ça a été parce qu'on a eu la clim. Toute la nuit, ça a marché.
Ça fait tousser un peu.
Ouais, par contre, oui, voilà, ouais.
Céline et les nombreux touristes ici vont maintenant chercher le plus de fraîcheur possible. Direction la plage pour Josie et sa fille Elodie.
On ira au bord de l'eau pour se rafraîchir le plus tôt possible.
À la fraîche. Mange une glace, va se rafraîchir dans l'eau, pas de problème.
Et quand le soleil tapera trop fort à la plage, ces joyeuses Toulousaines rentreront au frais sous la climatisation dans leur location.
Lauriane Delanoë avec Benjamin Troncin pour les moyens techniques. L'Aude qui rebasculera demain en alerte orange comme les autres départements du sud-ouest. Par contre, les départements du centre-est restent en vigilance rouge demain. Le Rhône, l'Ardèche, la Drôme et l'Isère. Cherchez de la fraîcheur comme on peut pour tenter de fuir la chaleur. Vous l'avez entendu, se baigner, marcher à l'ombre ou manger une glace. Mais face aux canicules qui se multiplient, eh bien les villes aussi tentent de trouver des solutions. Dans le Rhône, par exemple, en alerte rouge, les chantiers sont suspendus tout l'après-midi aujourd'hui, et ce jusqu'à 22h. Et à Lyon, la ville s'adapte et met à disposition 700 îlots de fraîcheur, des parcs et des fontaines à eau notamment. Alors, comment adapter l'urbanisme pour avoir moins chaud? Bonjour Mathilde Carion.
Bonjour à tous.
Commençons d'abord par justement ces fameux îlots de fraîcheur. Est-ce que ça marche?
Oui, ça marche plutôt bien et de manière très immédiate. À Lyon, justement, la température est en moyenne 2 à 4 degrés en dessous de l'air ambiant dans ces espaces ombragés, ce qui en période de canicule n'est vraiment pas négligeable. Autre solution de première ligne, les fontaines, les brumisateurs qui se multiplient dans les centres-villes, très efficaces mais très gourmands en eau. Et puis dans certaines villes du sud, à Nîmes, à Toulouse, à Perpignan, on voit des grandes toiles d'ombrage déployées au-dessus des places ou des terrasses. Là encore, c'est facile à mettre en place, c'est peu coûteux et la température baisse immédiatement de 5 à 7 degrés.
Alors Mathilde, tout ça c'est de l'ordre de l'adaptation immédiate, mais comme ces pics de chaleur, on le sait, sont amenés à se renouveler, voire à s'aggraver, il faut réfléchir évidemment à plus long terme.
Oui, le premier levier, peut-être le plus efficace, c'est le remplacement des revêtements des sols. On arrête le béton classique qui emmagasine la chaleur, on met de l'asphalte clair avec de la peinture minérale blanche. Ça a déjà été fait à Toulouse sur la place du Capitole. La température au sol a baissé de 10 degrés. Ensuite, on rentre dans des outils et des plans d'urbanisme. Végétalisation obligatoire, matériaux biosourcés, couloirs de vent. Tout ça est efficace. On en a des exemples à Fribourg, en Allemagne, à Bruxelles ou même à Grenoble, quartier Flaubert. Évidemment, cette adaptation-là est beaucoup plus longue, beaucoup plus coûteuse et sera l'un des gros enjeux des élections municipales l'an prochain.
Les explications de Mathilde Cariou pour France Culture. Une chaleur extrême qui n'arrange rien sur le front des incendies. En Charente, le feu qui a pris hier dans le massif de la Double est désormais fixé. Il a brûlé près de 200 hectares de végétation, mais n'a touché heureusement aucune maison. Une situation qui s'améliore donc en France, alors que nos voisins européens luttent toujours contre les flammes. Près de Madrid, un homme est mort dans un feu de forêt. En Espagne, toujours, une partie du site touristique de Las Medulas, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été ravagée. Et puis le Portugal lutte toujours contre des incendies. Pareil en Italie et en Albanie. Des feux de forêt en Europe et la sécheresse. Avec au mois de juillet ce chiffre impressionnant, vous allez le voir. Plus de la moitié des sols d'Europe et des côtes méditerranéennes étaient touchés par la sécheresse. Et ce, pour le quatrième mois de suite. Et ça ne concerne pas que les pays du Sud. En Angleterre, le pays a connu les 6 premiers mois de l'année les plus secs de son histoire depuis 1976. Résultat, le pays est frappé par une pénurie d'eau. Une pénurie classée même comme d'importance nationale aujourd'hui par l'Agence pour l'environnement. Les précisions depuis Londres, Sarah Menaille.
Les Britanniques invités à contribuer à réduire la pression sur l'environnement. Aujourd'hui, 5 régions d'Angleterre sont touchées par la sécheresse. Face à cette situation, les comtés doivent composer avec des restrictions d'eau inédites. Le Yorkshire, par exemple, dans le nord du pays, a interdit depuis le 11 juillet déjà l'arrosage des jardins, une interdiction qui pourrait durer jusqu'à la fin de l'automne. Il faut dire que l'Angleterre vient de vivre le printemps le plus sec depuis plus de 100 ans et l'été bat lui aussi des records avec des températures atteignant parfois les 35 degrés dans des régions où les normales de saison sont à 23. Résultat, les niveaux des réservoirs sont en baisse de 15% par rapport à la moyenne pour une première semaine d'août. Et pour la ministre britannique de l'eau, Emma Hardy, ce phénomène va se répéter, voire s'amplifier dans les années à venir.
Il va falloir arrêter de parler de situations exceptionnelles et commencer à accepter qu'en raison du changement climatique, ces situations vont devenir de plus en plus fréquentes. Il y aura donc des interdictions mises en place temporairement et leur évolution dépendra de ce qui va se passer dans les prochains mois.
L'Union nationale des agriculteurs a, elle, fait part de son inquiétude pour les mois à venir car les prévisions ne sont pas bonnes. Même sans nouvelles vagues de chaleur et avec des niveaux de précipitations supérieurs de 20% par rapport à la normale, d'ici l'automne, il n'y a que 2 comtés anglais sur 48 qui devraient être épargnés par cette pénurie d'eau.
Les explications de Sarah Menaille pour France Culture. Les policiers les ont réveillés à l'aube pour leur demander de partir. À Paris, évacuation devant l'hôtel de ville ce matin de plus de 350 migrants et sans-abri. Des familles qui dormaient sur le parvis de la mairie depuis 6 jours, faute d'hébergement d'urgence. Des cars ont donc été affrétés pour emmener près de 200 d'entre eux hors d'Île-de-France dans des centres d'accueil à Marseille, à Bourges ou encore à Besançon, principalement pour les femmes et les enfants. Mais plusieurs personnes ont refusé de quitter Paris parce qu'ils vivent ici depuis des années. Reportage d'Alexandre Berthaud.
Sous l'œil de très nombreux policiers placés autour du parvis de l'hôtel de ville, les familles de sans-abri sont abordées par des salariés de France Terre d'Asile en gilet bleu.
Oui, bonjour madame.
Et par ceux de la préfecture de région en gilet rouge.
Le plus proche, c'est le Bourges. Oui, je sais que c'est pas à Paris.
Bourges, donc, le sas d'accueil temporaire le plus proche de Paris qu'on propose à ce monsieur, qui, comme beaucoup, préférerait rester en Île-de-France, explique Sega, un des sans-abri.
Parce que quand on nous envoie dans notre ville, c'est pour juste déplacer le problème. D'ailleurs, le problème n'est même pas déplacé, c'est pour rajouter d'autres problèmes. Parce que nos adresses, nos demandes administratives sont sur Paris. Il y a d'autres qui sont dans les soins médicaux. Les médecins traitants, c'est sur Paris.
Quitter Paris, c'est encore se confronter à l'inconnu et ça fait peur à ces exilés, pour la plupart venus d'Afrique subsaharienne, comme Maria.
Strasbourg, Orléans et Bourges.
Et vous avez dit quoi, vous ?
On n'est pas sûr, parce qu'ils ne sont pas des anges. Hein. Est-ce que c'est comme ça se passe en Italie, ils prennent les gens et puis après et on refoule les gens, je sais pas.
Sur les 350 sans-abri que comptait la préfecture hier, environ 70 ont pris le car ce matin en direction des SAS régionaux, selon l'association Utopia.
Et sachez qu'une évacuation similaire a eu lieu aussi ce matin à Strasbourg. Les forces de l'ordre ont évacué près de 200 migrants, réfugiés et demandeurs d'asile. Ils dormaient depuis plusieurs semaines sous des tentes dans un parc du centre-ville. Ils ont été évacués vers 2 gymnases. La loi du plomb promulguée, ça y est, par Emmanuel Macron, mais sans la réintroduction de l'acétamipride prévu au départ, censuré par le Conseil constitutionnel. Les sages avaient jugé la réintroduction de ce pesticide contraire à la charte de l'environnement. Les Ukrainiens doivent pouvoir décider de leur avenir. C'est l'appel lancé par des dirigeants européens alors que vendredi doit se tenir une réunion entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine. Mais le président ukrainien n'est pas convié, l'Union européenne non plus, et il redoute que ce sommet débouche à une issue défavorable à l'Ukraine. Surtout que le président ukrainien Volodymyr Zelensky assure que la Russie prépare en ce moment de nouvelles offensives. Les explications de Bastien Bory, correspondant à Kiev en Ukraine.
Il ne semble pas s'agir d'une analyse à vue de nez. Le président Zelensky dit s'appuyer sur des rapports internes de ses services de renseignement qui affirment avoir remarqué de grands mouvements de troupes côté russe trahissant des manœuvres d'attaque. L'information vient des radars de surveillance ukrainiens postés notamment dans l'oblast de Zaporijja, occupé à 70% par Moscou, et qui fait l'objet cette semaine de nombreuses spéculations quant à un éventuel échange de territoire entre Ukrainiens et Russes. Quoi qu'il en soit, cette annonce arrive à un moment choisi. Quelques heures plus tôt, Volodymyr Zelensky s'entretenait en effet avec le premier ministre indien Narendra Modi et le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman pour mobiliser des partenaires hors du continent européen. À 3 jours désormais d'une rencontre en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine, le président ukrainien joue la montre et l'opinion pour que son homologue russe reste perçu comme l'agresseur. De plus, en cas de rejet des propositions du Kremlin dans les jours à venir, l'Occident apparaîtrait comme moins inflexible. Première étape de cette séquence diplomatique cruciale, demain, avec un échange prévu entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump et les dirigeants européens.
Bastien Bory en Ukraine pour France Culture. L'ONU et l'Union européenne condamnent ce qu'elles qualifient de meurtre, la mort de 6 journalistes palestiniens tués volontairement par une frappe israélienne dans la bande de Gaza. Les funérailles des reporters ont eu lieu hier et la chaîne qatari Al Jazeera leur a rendu hommage. 5 d'entre eux travaillaient pour la chaîne. Vous ne les verrez plus dénoncer les crimes ni errer parmi les tentes des déplacés, mais le meurtre des journalistes n'empêchera pas la diffusion des faits et des informations, a assuré le directeur de l'information de la chaîne. Pour sauver, je cite, la capitale du crime, du sang et du chaos. 800 militaires américains sont envoyés à Washington. Décision prise par le président Donald Trump qui accuse le maire démocrate de la ville de ne pas protéger ses habitants. Alors même que la criminalité élevée, c'est vrai, dans la capitale a baissé depuis 2 ans. Mais Donald Trump assure le contraire et cet envoi de militaires sur place, c'est un moyen pour le président d'utiliser l'armée à des fins politiques. C'est en tout cas ce que dit Jean-Éric Brana, spécialiste de la politique et de la société américaine.
Le président des États-Unis essaie de s'arroger des pouvoirs qu'il n'a pas par le biais de l'armée. C'est un problème puisque l'idée aux États-Unis, c'est que l'armée n'intervient pas dans la sphère civile. Et Donald Trump a tendance à gouverner par l'armée parce que c'est une police, on va dire, avec des gros guillemets, qui répond directement à ses ordres. Contrairement aux polices qui répondent aux ordres des gouverneurs, des responsables de comté ou des maires des grandes villes. Donald Trump essaie d'étendre les pouvoirs de l'exécutif. On le voit dans de nombreux autres secteurs. On se souvient du Doge dans lequel il essayait de faire des purges et donc de changer les effectifs fédéraux, les fonctionnaires, ce qu'il n'a pas le droit de faire non plus. Il essayait d'intervenir sur tout un ensemble de sujets, en particulier sur les universités, en essayant de peser sur la culture et l'éducation. Tout cela mis bout à bout fait quand même un portrait très noir qui montre que ce pays est en train de glisser doucement, mais sur vers un autoritarisme qui ne dit pas son nom, mais qui est quand même réel.
Jean-Éric Brana, contacté par Justine Leblon pour France Culture. Donald Trump qui annonce par ailleurs prolonger de 90 jours la trêve avec Pékin sur le front des droits de douane, alors que les taxes douanières de 145% sur les importations chinoises et les droits de douane de 125% sur les produits américains devaient entrer justement en vigueur aujourd'hui. Une trêve prolongée et méritée selon le président américain, car selon lui, la Chine continue de prendre des mesures pour répondre aux préoccupations des États-Unis en matière de sécurité économique et nationale. Un mot pour vous dire qu'il y a eu un séisme de magnitude 6,3 qui a frappé la Papouasie dans l'est de l'Indonésie. Mais le centre d'alerte au tsunami du Pacifique assure qu'il n'y a pas de menace de tsunami. On termine ce journal donc avec la météo et cette information très importante. Donc vous l'avez compris, la canicule est toujours là. Et 14 départements du sud-ouest et du centre-ouest de la France sont en vigilance rouge. Excusez-moi, 14 départements à bien comprendre du sud-ouest et du centre-est de la France en vigilance rouge. 64 départements en vigilance orange. Vous l'avez donc compris, seule la Bretagne est épargnée et reste en vert sur la carte de Météo France. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé avec l'aide de Julien Loquet. À la technique, c'était Grégory Wallon.